Vous écoutez Des campagnes en mouvement, cinquième saison du podcast sur les ruralités imaginé et réalisé par les étudiants du master journalisme de l'université Bourgogne-Europe. Cette saison documente des isolements fabriqués par des politiques publiques qui mettent en mouvement par la contrainte. Prendre la voiture plutôt que le train parce que la petite ligne est fermée ou que le TGV traverse sans s'arrêter. Devoir aller au bistrot et à la boulangerie du village d'à côté. Monter à bord d'un van pour parler santé psychique et violence sexuelle dans des milieux où tout le monde se connaît. Apprendre à se servir d'un smartphone pour accéder à ses droits. Elle rend compte aussi de mouvements nés de trajectoires individuelles. Des néo-ruraux, parfois néerlandais, toujours CSP+, qui s'installent et recomposent des territoires. Des mouvements qui, parfois, invitent à une nostalgie du temps d'avant, tout aussi fabriqué. Dans une boîte de nuit, on esquisse le portrait d'une jeunesse rurale qui danse sur des années 80 un peu fantasmées, bien aidée par ses aînés qui entretiennent la flamme d'un passé idéalisé. Le mouvement, les remous, c'est aussi un vote RN qui s'assume et des amitiés qui perdurent malgré tout, en se parlant, ou plutôt en faisant ensemble. Ce sont toutes ces facettes du mouvement dans les campagnes de Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté que les étudiantes et étudiants ont choisi de partager. Bonne écoute.
Avant qu'on commence, est-ce que vous avez des questions par rapport à la semaine dernière ?
Non.
Est-ce que vous avez essayé un petit peu tester de chez vous, des petites choses qu'on a vues? Ouais, ça s'est bien passé, pas eu de problème. Monsieur a réussi à débloquer son téléphone, il s'est rallumé, pas de souci. Ok, bon, parfait. Ah, vous avez toujours votre problème avec votre petit doigt?
Oui, un gros.
Un gros problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe le doigt, on le change?
On le change.
Alors, on va essayer
vous
de
écoutez
revoir ça.
RR404, quand les anciens se mettent à jour, un podcast écrit et réalisé par Adoum Ahmad et Ilyes Jamlaoui.
Vous arrivez à vous en sortir quand même. Vous avez une tablette chez vous ou pas?
Non.
En fait, quand on est sur du... Alors, pour tout le monde, quand on est sur quelque chose qui est tactile, sur un écran tactile, à aucun moment, il faut qu'on ait plusieurs doigts en même temps sur l'écran. C'est toujours un seul doigt. Parce qu'à partir du moment où vous mettez un doigt, bah après, ça bloque le reste, plus ou moins. C'est dans l'autre sens que vous n'arrivez pas.
C'est dans ce sens-là.
Ah, ben là, ça marche bien.
Mais ça m'a tout enlevé.
Hop, on vient dans l'autre sens.
Et qu'est-ce qu'on cherchait?
On a une droite et une gauche.
Et qu'est-ce qu'on cherchait, là, quand on faisait ça?
Bah, c'était juste pour balayer sur les applications, pour voir les suivantes. Vous n'avez qu'une page, donc à la limite, vous n'avez pas besoin de nous embêter. Vous n'avez qu'une page, restez sur cette page-là.
Alors, c'est bon.
C'est bien comme ça. Alors, allons-y.
Vous faisiez quoi, vous, il y a 26 ans? Oui, il y a 26 ans, à cette époque-là, Internet commençait tout juste à se démocratiser, et avec lui, toute une série de nouveaux mots. Si je vous dis le modem, le Minitel, puis la box, comment ne pas parler du fameux bug de l'an 2000, les débuts du Wi-Fi, les ordinateurs à la maison, puis évidemment, les tablettes et les smartphones. Aujourd'hui, plus qu'Internet, c'est le numérique qui est présent partout, et cette omniprésence dans nos vies a engendré un autre grand phénomène, l'électronisme.
Un mot que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est entré dans le dictionnaire Larousse pendant la pandémie de Covid-19. Il désigne l'état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création de ressources numériques. Mais derrière cette définition, il y a des réalités très concrètes. Et c'est cette dimension que nous avons choisi de documenter.
Alors pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, direction la Bourgogne-Franche-Comté et Bourbon-Lancy, petite ville de 4600 habitants en plein cœur de la Saône-et-Loire. C'est ici que nous avons rencontré Stéphanie et les participants d'un atelier pour apprendre à utiliser un smartphone.
On a tout perdu, je vous ai tous perdus.
On les efface.
Ils ne sont pas désactivés.
On les efface.
Je les efface.
Donc vous voyez un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui.
Oh là là, on va transpirer là.
On va transpirer. Donc on va commencer par relever les manches. Parce qu'en plus, il fait chaud chez vous.
Oui, c'est vrai.
Ah, on est d'accord? Et on va commencer par le début, c'est-à-dire on va déjà commencer à apprendre à télécharger une application. Ok? Alors, tout le monde a son petit téléphone en main. Hop, on se met en position. Je vais demander à tout le groupe. Normalement, tout le monde sait le faire, sauf peut-être monsieur, parce qu'il n'était pas la semaine dernière. Ouais. Je vais vous demander à tous de, désactiver vos données mobiles. Ok.
Données cellulaires, c'est ça ?
Ouais,
ça.
Données cellulaires.
Alors, moi, c'est Stéphanie Laforêt et je suis la responsable du Fab Lab à Saint-Axéreur, à Guignon. En fait, on a plusieurs pôles au sein de l'association. On a un pôle formation, ce pourquoi vous êtes venus, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est exclusivement, on va dire essentiellement même, réservé sur de l'usage au numérique. Donc on est sur de l'initiation, un petit peu de perfectionnement avec les démarches en ligne. Et puis bah là, pour aujourd'hui, c'était un module smartphone, puisqu'on a de plus en plus de demandes dans cette direction. En fait, on s'est rendu compte depuis quelques années maintenant que sur le territoire, en fait, on est face à des problèmes, un vrai problème de fracture numérique. Alors, effectivement, tout le monde n'a pas accès à des outils numériques. Et quand ils ont accès à des outils numériques, en fait, ils sont obligés d'apprendre par eux-mêmes. Et on sait bien qu'avec l'évolution qui va tellement vite, les publics seniors, ils sont un petit peu en décrochage. Un peu comme les jeunes, on va dire, qui sont en décrochage scolaire. Nous, on a des seniors qui sont en décrochage numérique. Et du coup, en fait, ils ont effectivement ce besoin parce que finalement, ils veulent rester indépendants et autonomes face à ces outils. Ils ne veulent pas être complètement largués, décrochés. Donc du coup, ils sont effectivement demandeurs de suivre des cours et qu'ils aient des professionnels en qui ils ont confiance pour les aider à utiliser leur outil numérique.
C'est celui-là.
Est-ce que c'est bon ?
Oui.
368. 21. 321. C'est pas les numéros du loto, je suis désolée. Hein.
C'est jamais, hein.
C'est bon, hein.
Il y en a peut-être passé, je sais pas, je suis pour le loto.
Et on le met où, celui-là ?
Dans le mot de passe.
Non, mais moi, j'ai pas ça.
Hein. Alors, non plus. Je...
Et on met connexion.
Ah, vous y arrivez.
Et on met des
connexions. Ouais, vous trouvez que c'est encore plus difficile que celui de la semaine dernière ou même l'équivalent ?
Vous pouvez refaire si vous voulez.
C'est équivalent, c'est parce que des choses qu'on n'a pas l'habitude de manœuvrer, c'est tout, mais bon.
C'est vrai que ça change du téléphone à clapet.
Loge de pierre.
Ah
ouais, elle est 13 ans.
C'est une antiquité.
Et en plus, maintenant, il est ménagé, mais avant, je travaillais, donc il était souvent à la poche, dans le camion. Ouais. Donc, pas spécialement ménagé, quoi. Voilà. Pendant longtemps, j'étais réfractaire parce que je voyais pas quoi ça servait de plus. Parce qu'avec un ordinateur et un clavier, on fait sensiblement les mêmes choses. Sauf sans statique, quoi. Mais bon, c'est vrai que... Il y a plein de trucs qui se font avec ça, les lecteurs de code barre, on peut avoir le GPS dessus, bon, parce que le GPS dans la voiture c'est bien, mais quand vous êtes à pied, comment vous faites ? Tout bête, mais... Ah maintenant j'arrive à payer directement sur l'ordinateur, avec l'ordinateur, c'est déjà bien. Avant je faisais mon chèque, consciencieusement, je postais et tout. Mais bon, vu le prix du timbre, ça vaut quand même le coup. Maintenant, ça va, moi, ça fait... suite à une précédente formation, maintenant, je sais télécharger les relevés de compte, les mettre dans un dossier, tout ça. Donc, après, là, c'est l'étape après, quoi. Puis, bon, il y a des trucs, je découvre ça. Ah, tiens, ça, c'est bien, ça. Je me faisais souhaiter à charger des téléchargements en anglais, et il n'y a pas longtemps, il y a un truc traduire, là, toc, c'est bien. Bon, maintenant, si j'ai appris tout seul, c'est sûr que là, c'est rentré. Il faut acquérir le vocabulaire, et puis, il faut pratiquer. Hein. C'est comme quand vous apprenez à conduire une voiture, hein. Vous regardez vos pieds au début, maintenant, vous ne les regardez plus. Hein. La même chose avec l'ordinateur, moi, je n'ai jamais trop appris, hein, bon. Puis maintenant, je ne sais pas tout faire, mais pour ce que je veux, ça fonctionne.
Bonjour et bienvenue dans cette formation à Internet. Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement ?
Plusieurs définitions existent. Autoroute de l'information, village à l'échelle planétaire, réseau universel ou encore cyberspace. Vous voyez, les étiquettes ne manquent pas.
Formation multimédia à Internet, Internet avec l'acteur Thierry Lhermitte, 1996.
Même les magazines télévisés lui consacrent leur couverture en occultant généralement deux aspects pourtant fondamentaux. Tout d'abord, son âge. Si je vous demande l'âge d'Internet, par exemple, 1 an, 2 ans, 5 ans? Non. Internet est beaucoup plus vieux que ça. Ce réseau, car il s'agit d'un réseau, fut créé dans les années 60 pour des raisons très peu humanistes. Imaginez. En pleine guerre froide, les militaires américains du Pentagone voulaient disposer d'un réseau informatique ayant l'allure d'une immense toile d'araignée. En anglais, web veut dire toile d'araignée. Plutôt qu'un réseau en étoile partant d'un centre. Ainsi, même si une partie du réseau venait à disparaître suite à un bombardement, par exemple, le reste du système continuerait à fonctionner malgré tout.
Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé.
Alors non, j'avoue, je suis pas Thierry Lhermitte, même si j'aurais bien aimé être au Splendide. Mais en écoutant ça, je sais pas pour vous, mais pour moi, une question persiste. Est-ce que la situation a réellement évolué depuis?
Sur votre petit carnet.
Ah bah il faut ça. La mémoire est défaillante à notre âge. Surtout quand on ne sait pas s'en servir.
Et du... Alors attendez, vous ne cliquez pas sur installer.
Ah bon.
Cette formation à Internet par l'acteur des Bronzés fête cette année ses 30 ans. À l'époque, Internet est encore une curiosité, une promesse technologique dont on parle beaucoup, mais qui reste encore loin des habitudes des gens. En 2026, le digital s'est imposé partout, dans nos démarches administratives, dans notre travail et dans nos relations sociales.
Et justement, cette numérisation constante, présentée d'abord comme une grande créatrice de liens, peut-elle également s'avérer être un facteur d'exclusion sociale et parfois même d'isolement? C'est en tout cas ce que traduit une notion tout aussi importante, celle de fracture numérique. Une réalité qui se démontre également avec des chiffres. Rien que selon l'INSEE, près de 8 millions de Français seraient encore en difficulté face aux outils connectés. Et parmi eux, 62% des personnes âgées de plus de 75 ans. On parle peut-être d'ailleurs de votre grand-père qui galère à envoyer un mail. Ou par exemple mamie qui n'a jamais su bien cadrer sa tête lorsque vous l'appelez en vidéo pour prendre de ses nouvelles.
Ça va me soulager, mais bon.
Mais cette fracture est-elle uniquement numérique ou relève-t-elle des inégalités sociales parfois plus profondes? Pour avoir la réponse, on a suivi notre intuition et on a repris la route pour rejoindre Dijon, la capitale du duc de Bourgogne.
C'est là que nous avons rencontré la sociologue Clara Deville, chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
Fracture numérique, c'est d'abord un terme de l'action publique, c'est-à-dire d'une catégorie d'action publique. C'est la manière dont le gouvernement, dont l'État, dont les CAF pensent le problème. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est une politique publique. C'est une catégorie d'action publique qui construit une réalité qui est en décalage avec ce qui s'observe en réalité. Donc fracture numérique, ça renvoie à un truc scindé en deux, à une réalité qui se coupe en deux, avec des gens qui sauraient et des gens qui ne sauraient pas. Et ce truc-là, la fracture numérique, va avec un deuxième terme, qui est l'électronisme, et avec une définition des personnes concernées par l'électronisme. En gros, dans l'action publique, il y a des gens qui sont ciblés comme étant en fracture numérique et donc victimes d'électronisme. C'est les personnes âgées, qui seraient pas de culture numérique, qui aurait pas grandi avec la culture numérique, principalement, c'est ça. Et donc, il y a une action publique qui se déploie à destination de ces personnes-là.
Charmant petit message. Terminer la configuration du compte. Ça ne se produit pas sur toutes les applications. Mais voilà, il y a certaines applications, c'est pour ça que j'ai
volontairement... Ça ne repose sur aucune donnée sociologique, que ce soit des données d'observation qualitatives ou des données statistiques. Ce qu'on voit, c'est que les usages du numérique, déjà il faut distinguer deux choses. Les usages du numérique de manière générale se répartissent plutôt en fonction des classes sociales plutôt qu'en fonction de l'âge. C'est-à-dire que le variant, c'est un variant de classe plutôt que d'âge. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on a moins d'outils informatiques d'une part et moins d'usages de l'informatique.
Ça peut être une idée reçue justement.
C'est une idée reçue, c'est un piège à penser qui est notamment très construit par l'État. Donc ça, c'est assez faux. C'est-à-dire que ce n'est pas les personnes âgées qui sont les premières concernées par ces difficultés liées à l'usage du numérique. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut distinguer savoir se servir d'un smartphone, d'un ordinateur, et savoir faire cette démarche en ligne. C'est-à-dire parler d'électronisme, c'est réduire, ou parler de fracture numérique, c'est réduire l'accès au droit à une dimension technique. C'est-à-dire qu'il suffirait de maîtriser un ordinateur, un clavier, une souris, un smartphone pour accéder à un droit social, quel qu'il soit. Moi, j'ai plutôt étudié le RSA. Ce truc-là, ça s'appelle une technicisation de la réalité. Et là aussi, c'est un piège à penser. S'adresser à l'État, même en contexte numérique, ça reste s'adresser à l'État. Il y a des gens qui sont très à l'aise sur TikTok, que ce que vous voulez d'autre comme plateforme, et qui ne parviennent pas à obtenir leurs droits, parce que c'est très différent. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre cette technicisation des enjeux de l'accès aux droits, de l'accès aux droits en contexte numérique, pour retrouver les racines sociales, le contexte social, les enjeux sociaux de l'accès aux droits.
Pour l'information, la semaine prochaine, quand vous allez revenir, je vais vous dire quoi en arrivant. Je vais vous dire, on désactive les données mobiles et on active le Wi-Fi. Voilà.
Mais vous n'aurez même pas besoin de nous le dire, on le fera.
Voilà, vous avez entendu. Vous avez entendu.
Là, on est témoins.
Ouais. Attention.
Donc c'est bon.
Non, tout ça pour dire qu'en fait, du coup, quand vous allez activer le Wi-Fi la semaine prochaine, j'aurai pas besoin de vous redonner le code, parce que votre téléphone va le reconnaître.
Va le reconnaître.
Ok.
Non, on peut avoir plusieurs Wi-Fi. C'est plusieurs codes.
Ah, je pense que la semaine prochaine, j'ai hâte d'être ici. Je pense que la sécurité, ça va être un moment mémorable avec vous. Ah, j'ai hâte. Bon, j'espère en tout cas que vous avez un peu mieux compris. J'ai conscience que c'est un gros cours. Les applications, c'est très compliqué. Ça peut être fastidieux. Promis, mesdames, la semaine prochaine, je demande à ma collègue qu'elle me fasse un cours accéléré iPhone pour être plus au top. Parce que je ne suis pas super à l'aise avec iPhone. Contrairement à elle qui a un iPhone.
Lui, il nous a donné beaucoup de choses.
Donc,
je ne suis pas payé pour faire ça, c'est ça le problème.
On voulait qu'on vous donne une pièce.
Non, c'est gentil. Oula, je suis pas misérable, là, vous savez. On vit bien.
Mais effectivement, voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera le cours sur la sécurité. On parlera de SMS, on parlera de sécurité du téléphone. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va voir. Accrochez-vous.
Vous venez d'écouter Erreur 404, quand les anciens se mettent à jour, un podcast écrit et réalisé par Adou Mamat et Ilyes Jamlaoui. Un grand merci à Stéphanie Laforêt et l'association Syntaxe Erreur, à l'ensemble des participants de l'atelier numérique, ainsi qu'à l'INRAE et la chercheuse Clara Deville, à l'accompagnement de ce projet Clément Salezard, Benoît Coquard et Jérôme Berthaud, et à la technique François Salis.
Et bien maintenant, je vais vous dire au revoir. Au revoir.